Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jacques. Nous allons continuer donc dans notre étude. Nous allons regarder les versets 16 à 18 du chapitre 1. Jacques, donc vers la fin du Nouveau Testament, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, vous pouvez y retourner à tout moment. Et nous allons donc Jacques 1. Et nous regardons ce matin les versets 16 à 18. Et j'ai donné comme titre, puisqu'il faut donner un titre, à ce message, « Dieu est bon ». Et vous verrez pourquoi. Je n'ai pas été chercher midi à 14 heures. Donc nous prenons la lecture au verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce Père des Lumières nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc on revient, comme je l'ai dit, à notre étude du premier chapitre de Jacques. Dans les versets qui nous occupent ce matin, nous avons une fois encore l'idée d'un maître de chantier. Vous vous rappelez cette image du maître de chantier? C'est ce maître qui est fait, enfin qui était fait dans le temps, en bois, des petits segments de bois qui sont liés entre eux par un rivet qui sert d'articulation. Et selon la longueur, l'artisan allait défaire ce maître selon plusieurs segments. Et Jacques est cet homme qui utilise ces liaisons. Il va donner une vérité et puis en utilisant un mot comme articulation, il va aller plus loin dans son raisonnement. Et une fois encore ici, nous venons à cette illustration du maître de chantier. Il va falloir que je me débrouille pour en trouver un, pour pouvoir vous montrer de quoi je parle, parce que je sais que les plus jeunes d'entre nous n'ont aucune idée, n'en ont jamais vu. Donc on a utilisé cette expression. Et vous aurez remarqué, pour ceux qui ont déjà suivi nos études, que nous venons de lire le verset 16, qui faisait déjà partie de notre texte la semaine dernière. Et la raison pour y revenir, c'est qu'en fait, ce verset 16, c'est une des articulations de notre maître de chantier. Il appartient à la fois à ce qui a précédé et à ce qui a suivi. C'est intéressant que l'expression qui est utilisée ici revient plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament tout au moins, et à chaque fois, elle est utilisée, elle s'appuie sur ce qui a précédé pour ouvrir ce qui suit. Et donc c'est le cas ici, c'est le cas. Nous y revenons et nous continuons à déplier notre maître de chantier. Donc un texte qui s'appuie sur ce qui est venu avant et qui nous ouvre la fenêtre pour regarder ce qui vient ensuite. En plus, en examinant ce verset 16, je veux revenir à la foi en action. Ça, c'est quelque chose que je me plais à répéter, vous l'aurez remarqué. Il est possible, mes amis, d'étudier la parole de Dieu d'une manière qui est seulement intellectuelle. On peut même en ressortir des doctrines qui sont vraies, qui sont belles, mais on le regarde d'une manière qui est seulement intellectuelle. Il y a une dimension intellectuelle, oui, mais j'appuie sur le mot « seulement ». Et par suite, cela est relativement stérile. Cela n'a pas un impact dans le vécu de la vie, si je puis dire. Or, Jacques, de manière prééminente, s'inscrit en faux contre une telle démarche. Étudiez la parole, oui. Faites-le en profondeur, oui. Mais surtout, soyez transformés par la vérité. Vivez la vérité. Voilà l'appel de Jacques. Et nous le voyons ici dans ce verset 16. Vous qui êtes croyants, revenez en arrière dans votre expérience. Venez avec moi. Rappelez-vous ces premiers moments où la vérité de l'Évangile est venue vous renverser. Quel émerveillement, quelle joie, quel zèle, quelle fougue. Même si la chose était graduelle, il y avait cette force, n'est-ce pas? Comme on dit couramment, vous étiez tout feu, tout flamme, même au-dedans de vous, pour ceux d'entre vous qui êtes d'une nature peut-être plus introvertie. Il y avait un feu qui brûlait, n'est-ce pas? En fait, vous connaissiez très peu de la vérité. Mais la vérité, vous connaissez. Mais vous aviez été saisi. Vous auriez été surpris d'incompréhension si quelqu'un avait mis en doute ces faits, ces choses que soudain vous aviez commencé à voir. Pour vous, elles étaient tellement réelles que si quelqu'un avait dit « Mais ah bon, vraiment ? Ben, je ne crois pas ça. » Vous auriez dit « Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ?» Et l'amour de Dieu, et l'amour pour Dieu gonflait votre cœur, n'est-ce pas ? Débordait. Vous sentiez comme si vous alliez exploser. Alors, votre expérience, je ne la connais pas, mais j'essaie de tracer des traits assez communs, n'est-ce pas? Et vous pouvez remonter dans votre expérience. Et puis, les années ont passé. L'habitude s'est installée, un peu la routine. Les épreuves sont survenues, un peu comme des vagues, l'une après l'autre. Certaines de ces épreuves étaient assez triviales, d'autres étaient plus sérieuses, certaines étaient même graves. Mais dans un cas comme dans l'autre, la routine même, l'habitude, le fait que ces épreuves venaient et venaient et venaient, alors le feu qui brûlait dans votre cœur, ce feu a baissé. Bien sûr, vous aimez encore le Seigneur, mais c'est un peu, comment dire, en arrière-plan. En arrière-plan. Ça n'a pas disparu, mais il y a tant d'autres choses qui s'imposent sur le devant de la scène. Vous n'avez pas tant de temps, pas tant d'énergie pour les choses de Dieu. Et surtout, ces épreuves et leur lot de douleurs, des douleurs qui ne sont pas toujours visibles, mais très douloureuses, c'est là. Et petit à petit, inconsciemment, la question a commencé à s'imposer. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et graduellement, cette question se transforme. Et pourquoi est-ce que Dieu m'inflige-t-il cela? Alors, j'ai dit, c'est souvent inconsciemment. Inconsciemment. Et comme pour les croyants du temps de Jacques, vous en êtes venus à penser, sans le dire, Dieu me tente. C'est Dieu qui m'envoie tout cela. Alors, bien sûr, dit ainsi, vous vous reculez avec horreur, vous dites non, mais regardons les faits, c'est une réalité. On a déjà examiné l'anatomie de cette pensée non dite, qui transforme le croyant en victime et qui, de cette manière, le paralyse. Et on sait qui veut paralyser le croyant, n'est-ce pas? Et Jacques dit donc à ses croyants, et c'est notre premier point, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Parce que nous voyons ici au verset 16, ne vous y trompez pas, mais le Y qui est dans notre version, dans nos versions, n'existe pas dans l'original. C'est quelque chose, c'est déjà une interprétation qui a été donnée par les traducteurs, c'est dommage, mais Jacques dit, ne vous trompez pas, ne vous égarez pas. Si vous pensez que Dieu est capable de vous tenter, tant soit peu. Si vous pensez cela, mes amis, sachez une chose, vous êtes dans l'erreur. Ne vous trompez pas. Et la chose n'est pas anodine. En effet, qui est le trompeur par excellence? Bien sûr, c'est Satan. C'est l'ennemi même de Dieu. Faisons attention, il n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi de Dieu et c'est l'ennemi des âmes. Et vous faites, par cette pensée, vous faites l'objet de ces attaques, même quand vous ne le sentez pas. Et que fait-il ici? Quand il vous amène à penser, ces tentations viennent de Dieu. Tout simplement, il vous fait perdre le centre de référence authentique. Il est en train de chambouler votre monde. Le moi est devenu le centre de tout. Satan est très content de rester dans le fond si il vous amène à mettre le moi devant. Pourquoi quiconque, même Dieu, me ferait cela à moi? Voilà un peu ce que Satan fait, en fait. Il agit sur votre nature pécheresse et égocentrique, ce que Jacques appelle la convoitise, nous avons vu, n'est-ce pas? Et il vous amène, souvent à votre insu, grâce à la vie de Dieu qui vit en vous, il vous amène à votre insu à attribuer à Dieu le caractère de Satan lui-même, la nature de Satan lui-même. En effet, d'une manière ou d'une autre, il vous amène à traiter Dieu de tentateur. C'est pour cela que je dis, ça n'est pas anodin. C'est ici la pièce maîtresse du trompeur. C'est ce qu'il a fait en Éden. Et ça a marché. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait? Faire passer Dieu pour quelqu'un qui est moins que votre ami. Il l'a essayé même avec le Seigneur Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ce que le Père venait de dire de façon audible, si tu es le Fils de Dieu, ça n'est pas normal que tu aies faim. Alors, toi, tu peux quand même changer ces pierres en pain, n'est-ce pas? Bien sûr, là, avec le Seigneur Jésus, il n'a pas rencontré l'égocentrisme qui habite l'homme pécheur, vous et moi. C'est pour cela que Jésus lui répond au moyen de la parole de Dieu. Et nous allons le voir encore plus. Il est dit, ce qui est la dernière arme que souvent nous utilisons dans la tentation. La tentation nous vient, et que faisons-nous? Nous allons nous défendre, d'une manière ou d'une autre, on va faire plus d'efforts, on va se remettre d'aplomb, si possible, pendant un temps, nous allons essayer de nous excuser, de justifier notre culpabilité, mais nous n'allons pas à la parole de Dieu. Nous n'allons pas à la Bible, nous n'allons pas à la parole de Dieu vivante, nous n'allons pas à Christ, qui est le sauveur des pécheurs, n'est-ce pas? Et donc, Jacques dit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Vous êtes sortis de la vérité si vous pensez ainsi de Dieu. Vous vous trompez. Revenez donc à la vérité. C'est pour cela que je regarde ce verset comme une charnière dans notre passage. Au lieu de vous tromper au sujet de Dieu, au lieu de le voir comme celui qui tente, eh bien, regardez-le comme il est vraiment et voyez ce qu'il fait, ce qu'il fait. Et Jacques ajoute, mes frères bien-aimés, mais dans notre version, ces mots sont un peu mous. Dans un sens, Jacques est un bon berger. Il est rempli d'amour pour ses frères. Il doit parler avec fermeté, mais ce sont ses frères, et donc c'est pour ça qu'il parle de frères bien-aimés. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Quelque chose leur est arrivé. Ils sont précieux pour lui. Et cela nous pose une question, n'est-ce pas? En outre, ils sont bien-aimés à la fois de Dieu et de Jacques. Et il est dit avec justesse que L'amour couvre une multitude de péchés. Oui, nous avons ici, de la part de Jacques, une approche très sage, très sage. Et nous avons besoin de nous en inspirer. Mais il y a un autre aspect dans les paroles de Jacques. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou non de sa part. En tout cas, c'est réel. C'est réel. Parce qu'on pourrait rendre ces paroles d'une manière qui serait pas très belle en français, mais plus proche de l'original et très puissante. En fait, il dit « Ne vous trompez pas, frère de moi, bien-aimé. » Alors, vous comprenez que ce n'est pas français du tout. Mais ce « de moi » me parle. Et il me dit « Se tromper n'est pas une fatalité qu'il faut subir, quelque chose contre laquelle on ne peut rien. » Non. « Moi-même, dit Jacques, je suis frère comme vous. Vous êtes frère de moi. Et Dieu me donne de voir clairement. Alors pourquoi pas vous ? » Vous voyez comment cette petite phrase amène ses frères à voir qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas une fatalité. On peut ne pas dire « Dieu me tente ». C'est très important. Dieu donne à Jacques de voir clairement. Et je vois, dit Jacques, qu'il ne peut pas tenter, puisque lui-même n'est pas tenté par le mal. C'est quelque chose qui est dans un autre registre, ça ne le touche pas. Mais moi, un frère comme vous, je vois autre chose. Vous, vous voyez, vous en êtes venu au point où, d'une manière ou d'une autre, presque inconscient. Vous voyez que Dieu vous tente, mais moi je vois autre chose. Et c'est notre deuxième point. Dieu est bon. Dieu est bon. Ne vous trompez pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Parfois, lors de des obsèques par exemple, il peut arriver qu'on entende des phrases comme « C'était un homme si bon » ou « C'était une femme tellement vertueuse. » Or, si vous connaissez un tant soit peu la vie, le caractère du défunt, vous pouvez vous demander selon quelle norme on peut qualifier cet homme de bon. Parce que personne ne le disait avant. Comment est-ce qu'on peut dire que cette femme était vertueuse? Quelle est la norme pour dire « il est bon, il est bon » Dans notre passage, Jacques nous dit que Dieu est bon. Mais il nous dit surtout que Dieu est tout bon. En fait, il est la norme de ce qui est bon. Regardons un peu ce que Jacques dit. Et nous avons un premier sous-point. Ceux qui me connaissent, les points, les grands points, c'est un carré, les sous-points, c'est un triangle. Donc, deuxième carré, premier triangle, toute grâce excellente. Ne vous trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente. Jacques ici parle de toute grâce excellente. Mais il ne s'agit pas ici de ce qui vient d'en haut, de Dieu. Mais la manière dont Jacques écrit ici, et la traduction n'est pas très très bonne, c'est en fait tout acte de donner. C'est en fait le fait de donner. Le fait de donner vient d'en haut. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un de très dépravé qui vous donne quelque chose. Mais d'où vient la motivation première, la cause première? Cela vient d'en haut. Même si la personne qui vous donne le canal, l'instrument, n'en a aucune conscience, non. Voilà ce que Jacques ici dit, toute grâce excellente, en fait, il nous parle du fait de donner. Et tout acte de donner qui est bon vient de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. En conséquence, comment est-ce que Dieu pourrait-il donner ce qui est mauvais ou ce qui mène au mal? Vous voyez, la logique, elle est imparable. L'explication réside ailleurs. Vous vous trompez. Et Jacques l'a montré. Dans l'épreuve, ne fixez pas le regard sur la souffrance. Même quand la souffrance est aiguë, est terrible. Mais posez vos regards sur le but voyez ce que Dieu fait avec l'épreuve. Par cela, le Dieu tout sage, par cette épreuve, le Dieu tout sage vise quelque chose. Regardez le verset 3 que nous avons déjà regardé. Sachant, commençons verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, gardant en mémoire, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu fait quelque chose. Et c'est là que le regard doit se fixer, plutôt que sur l'épreuve. C'est pourquoi le croyant doit se réjouir de l'épreuve. Pas d'une manière masochiste, non. Le croyant endure la douleur comme l'autre. Et elle est, la douleur est douloureuse, si je puis dire. Il y a des moments où on est poussé jusqu'au bout de soi-même, à tout moyen, à tout niveau, je veux dire, que ce soit physique, psychologique, mental, spirituel, voyez. Mais le croyant doit se réjouir de l'épreuve, car c'est Dieu qui œuvre dans l'épreuve. Et nous avons vu la semaine dernière, je crois, que la lettre aux Hébreux, chapitre 12, nous montre que s'il n'y a pas d'épreuve, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Parce que ça veut dire que Dieu ne nous considère même pas comme enfants. Nous sommes des bâtards, nous sommes en dehors de la famille. Et Dieu ne peut pas tenter. Il éprouve ce qui a un but, mais il ne peut pas tenter ce qui conduit au mal. Il ne peut pas viser le mal quand il vous envoie l'épreuve. Ça n'est pas possible, parce que tout ce qui vient de Dieu, le fait, ce qu'il fait, le fait de donner, est bon. Non, c'est la nature pécheresse et égocentrique de l'homme qui, se saisissant de l'épreuve, la traduit en tentation et engendre ce qui, à son tour, produit la mort. Pour sa part, Dieu donne car il est bon, et ce qu'il donne est bon. Cela ne peut ne pas sentir bon tout de suite. Il y a certains des médicaments que nous devons prendre qui ne sont pas très bons, mais ils accomplissent le travail. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lieu où on avait une concoction pour la toux. Et c'était tellement horrible. C'était vraiment une épreuve de la boire, d'avaler cela, que en fait, ça agissait souvent avant même qu'on prenne la chose, parce qu'on n'essayait pas trop tousser pour ne pas avoir à prendre ce sirop contre la toux qui était tellement horrible. Vous voyez, l'épreuve de Dieu, elle peut ne pas sentir comme si elle est bonne, mais elle a un but qui est bon. Toute grâce excellente. Mais Jacques dit aussi que tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Tout don parfait. Dieu est bon et il donne ce qui est bon. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Et ici, Jacques utilise un mot qui est traduit par « parfait ». En fait, ce mot est très riche et il indique plus littéralement « ce qui n'a plus besoin d'ajout », ce qui est complet. Ce qui est complet. Il n'y a pas besoin d'ajouter. C'est complet. Il a déjà utilisé ce même mot à deux reprises au verset 4. Regardez. Mais, l'épreuve produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, vous voyez. C'est le même mot là. Afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse son œuvre et qu'il n'y ait plus rien à ajouter. On continue à grandir, oui. Mais quelle est cette œuvre? Que nous soyons parfaits, c'est-à-dire que vous parveniez à l'état que Dieu vous destine et qu'il n'y ait plus rien à y ajouter. Ce mot est aussi apparenté, pas directement, mais quand même, à ce grand cri qui jaillit de la croix. Tout est accompli, tout est parfait. Tout est fait. Il n'y a plus rien à y ajouter. Cela nous donne un peu le sens de ce mot, c'est-à-dire que ce que Dieu donne agit de telle manière qu'il n'y a plus rien à ajouter. Alors bien sûr, Dieu va nous faire continuer, nous faire grandir dans la grâce. Mais là où nous sommes parvenus, le don de Dieu est complet, est complet. Donc on ne peut pas dire, mais il me tente, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, absolument pas. Quoi que vous puissiez ressentir, quoi que vous puissiez penser, mes amis, Dieu est bon. Et il n'est que bon, à la fois dans ce qu'il donne et dans la manière dont il le donne. Par exemple, il vous donne, il met sur votre chemin une épreuve qui met à mort votre orgueil. N'est-ce pas une bonne chose ? Bien sûr que oui. Cela ne veut pas dire que ce soit une chose plaisante, mais elle est bonne. Elle est bonne. Ces bonnes choses viennent d'en haut, nous dit Jacques. Et certains se saisissent de cela pour rendre la chose impersonnelle. Vous voyez, c'est en haut, on parle d'en haut, comme aujourd'hui, il y a des choses dont on ne veut pas vraiment parler d'une manière qui nous impacte, alors on utilise des expressions qui sont assez impersonnelles. Je me rappelle une fois, étant en montagne et devant un panorama qui est d'une grande beauté, alors j'entendais les gens qui étaient autour de moi qui parlaient de la mère nature, comme cette nature est belle. Et ils me démangeaient de leur crier, mais mes amis, la beauté n'a pas été créée par la nature, mais la nature a été créée par quelqu'un de beaucoup plus beau encore, qui est ce Dieu qui veut se révéler à vous. Mais Jacques ne va pas dans le sens de la mère nature, c'est pourquoi il précise que tout ce qui vient, vient du Père des Lumières. C'est un troisième sous-point. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières. Et ici, quand on voit cette expression, il est possible de s'empresser d'y voir une référence au fait que Dieu est créateur, est quelqu'un qui est complètement pur, qui est parfait, qui est le Père des Lumières, etc. Et tout cela est vrai. Dieu est créateur, Dieu est parfait, Dieu est pur. Mais ce n'est pas ce que Jacques dit ici. Souvenons-nous qu'il écrit à des gens qui traversent des épreuves parfois violentes et douloureuses. Ce sont des gens à qui les épreuves voilent la face de Dieu. Dieu est toujours là, mais il ne le voit pas tant et il le voit sous un jour qui n'est pas juste. Et Jacques veut ramener ses frères de moi bien-aimé au fait que Dieu est bon, au fait de la réalité de Dieu, qu'il est seulement bon et que rien de moins que bon ne peut venir de sa main. Ici, Jacques parle tout simplement des astres, des planètes et des étoiles, et notamment du soleil. C'est tout simple. Vous regardez la voûte étoilée et la nuit, et certaines étoiles brillent fort, d'autres moins. Il y a des choses qui changent là, n'est-ce pas? Il y a des étoiles qui scintillent, donc un moment on voit, un moment on ne voit pas, et ainsi de suite. La lune passe par ses phases. Et s'il y a une éclipse du soleil, la lumière du soleil disparaît. Mais lui-même ne cesse pas de briller. Alors que la lune, quand elle est dans sa pleine force, en fait, elle ne brille pas. Elle brille d'un éclat qui est réfléchi seulement. Alors que même quand vous ne voyez pas l'éclat du soleil, il brille. Le soleil ne peut que briller. Je ne vais pas entrer dans les considérations techniques et mécaniques de cela. Mais voilà ce que Jacques est en train de nous dire. Et bien entendu, ce qu'il dit, c'est que Dieu ne peut que briller. Il ne change jamais. Il ne change jamais. En conséquence, sa bonté n'a pas de croissant, n'a pas de quartier, n'a pas de pleine expression. Non. Sa bonté, c'est toujours bon, bon et bon. Chez lui, dit Jacques, il n'y a ni changement, ni ombre qui tourne. Il est toujours le même. Et donc, ne vous trompez pas. Revenez de votre erreur et regardez la vérité en face. Comme le dit l'apôtre Jean avec une telle force et une telle beauté, mais aussi une telle brièveté que on ne peut que le citer. Et c'est en 1 Jean 1,5, il dit « Dieu est lumière ». Et il n'y a point en lui de ténèbres. Un point, un trait, c'est tout. Voilà ce que Jacques est en train de ramener au devant de la pensée de ses frères bien-aimés. Dieu est bon, il n'est que bon et il ne donne que ce qui est bon. Non seulement cela, mais Dieu l'a prouvé si vous êtes croyant. Et c'est notre troisième point. Parce que Jacques nous dit, il nous a engendrés. Il nous a engendrés. Jacques, l'homme des liaisons, se souvient de ce qu'il vient d'écrire, ce que nous avons vu là, la semaine dernière. La convoitise, la nature humaine centrée sur elle-même, la convoitise de l'homme conçoit et elle engendre le péché. Et ce péché lui-même, parvenu à la maturité, il produit la mort. Il met au monde la mort. Nous avons vu cela. Triste, triste situation, n'est-ce pas? À l'opposé, Dieu, qui ne donne que ce qui est bon, nous a engendrés. Et quel en est le résultat? La vie? Bien plus, mes amis, bien plus. Regardez, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Il engendre, et Dieu engendre, et qu'est-ce qui vient à l'existence? En fait, une nouvelle création, un nouvel ordre des choses, un nouveau monde. Jacques est encore plein de ces images. Il a parlé de la femme qui accouche, parfois au travers de grandes douleurs. Et l'Église connaît de terribles douleurs actuellement. Mais le résultat sera que toute la création, qui aujourd'hui soupire, gémit, dit Paul, cette création sera affranchie. Toute la création sera affranchie. Voilà ce que Dieu donne. Pas la mort, non, mais une nouvelle vie, même si cela passe à travers les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs que Paul lui-même ressentait, ces douleurs que la femme en travail éprouve. Mais comme l'a dit Jacques, lorsque l'enfant est né, elle l'oublie. Et quand l'union sera totale, sera même physique, si on peut dire, entre le Seigneur et son Église, l'Église pensera-t-elle encore à ses épreuves? Dira-t-elle encore « Dieu me tente » Direz-vous, amis croyants, « Dieu me tente » Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle création, une nouvelle création. La question se pose de savoir comment est-ce que Dieu amène cette nouvelle vie, cette nouvelle création? Le péché, l'être humain produit la mort. Dieu amène la vie. Et Jacques nous dit comment il le fait. Premièrement, notre premier sous-point sous ce grand carré, selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Souverainement. Sans être sous l'obligation de quoi que ce soit, il est libre de toute éternité. Il a voulu. Un point, c'est tout. Et les choses se passent telles qu'elles se passent. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. On ne peut pas aller plus loin. Depuis toujours, Dieu a voulu. Dieu a conçu. Dieu a préparé et a mis en exercice la venue d'une nouvelle création. Une création qui reflétera tout ce qu'il est et qui lui donnera gloire. En dehors de cela, mes amis, il est impossible de comprendre ou d'expliquer la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui est venu, l'agneau immolé, qui était immolé, nous dit Pierre, dès avant la fondation du monde, prédestiné à être la victime qui pacifie Dieu. Voilà ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Et le fruit de cela, c'est qu'il nous a engendrés si nous sommes croyants. Il nous a engendrés, c'est notre deuxième sous-point ici. Cela nous montre que rien dans l'œuvre de cette nouvelle vie ne vient de l'homme. Rien du tout. Laissons de côté, mes amis, c'est « j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai laissé entrer Jésus dans ma vie » et ce genre de niaiseries religieuses qui sont tellement répandues aujourd'hui. Non, il nous a engendrés. Est-ce que toi, tu as eu la moindre chose à faire pour ton engendrement physique ? As-tu donné la permission à ton père d'aimer ta mère ? Ce sont des balivernes, n'est-ce pas ? Ridicule. Et pourtant, combien de gens les gardent dans leur cœur, des gens sincères, au niveau spirituel ? Non. Dieu donne son esprit de vie. Et voilà une vie qui paraît à jamais indestructible. La promesse, cette vie, cette petite vie-là, si imparfaite encore, et pourtant, tout est là. Cette vie, c'est la promesse de la totalité. Nous allons le voir dans un moment. Comme autrefois en Israël, le fermier commençait sa récolte et il apportait la première gerbe au tabernacle pour la consacrer à Dieu par la foi. Il avait la foi dans la promesse qu'il aurait toute la récolte, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Dieu se sanctifie un peuple qui annonce la nouvelle terre, les nouveaux cieux où habite la justice. Ce sont les prémices. Nous sommes engendrés, dit Jacques. Il nous a engendrés selon sa volonté, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices, la promesse de ces créatures. Bien entendu, à l'époque, il y avait encore tous ceux qui devaient venir, il y a encore tous ceux qui vont venir à travers la parole de ceux qui croient dans le témoignage des apôtres, comme dit le Seigneur Jésus en Jean 17. Mais cela va plus loin, c'est toute la création qui attend, et qui va être elle-même renouvelée. Voilà ce que Dieu fait engendrer. Et la question, ce texte nous pose la question, te pose la question. As-tu été engendré de Dieu ? Ou est-ce que tu te fabriques, tu te formes, tu te modèles en chrétien selon un certain code ? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est notre prochain sous-point, n'est-ce pas ? Et c'est une chose importante à souligner aujourd'hui, par la parole de vérité, la révélation de Dieu, la Bible. C'est une chose importante à souligner, car il y a beaucoup d'incrédulité vis-à-vis de la parole dans l'Église. Oui. On ne croit pas que la parole seule accomplit cette œuvre de vie sous l'action de l'Esprit. Non, on ne le croit pas. C'est pourquoi on ajoute toutes sortes de choses pour accroître son efficacité. Il faut de la musique douce pour préparer les cœurs, il faut une pré-évangélisation et que sais-je encore. Pourquoi ? Parce que, inconsciemment, on pense que la parole ne peut pas faire l'œuvre à elle seule. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Mais l'annonce de la parole de Dieu, publique, privée, formelle, informelle, est le seul instrument que l'Esprit de Dieu emploie pour donner la vie, pour engendrer. La parole de Dieu est très très claire. Juste deux passages, mais vous pouvez rechercher pour vous-même. Romains 10, ce sont des passages que vous connaissez. Romains 10, chapitre, verset 17. Ainsi, la foi qui donne la vie, qui transmet la vie, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis, il y a tout le développement que Paul donne là, auquel je vous invite à rester. Et puis, dans la première lettre de Pierre, un peu plus loin que notre passage, au chapitre 1, verset 23, regardez. Vous avez été régénérés, on parle engendrés, n'est-ce pas ? Non par une semence corruptible, quelque chose qui vient des hommes, qui vient de ce monde, non, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toutes les autres choses passent, comme Pierre continue de le dire, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, c'est la parole annoncée, l'annonce de la parole. La convoitise, la nature de l'homme, conduit au péché et cela produit la mort. Dieu donne son esprit qui souffle sur la parole. Et cela lui donne vie pour qu'elle donne la vie. Si vous êtes croyant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il est possible que vous n'en ayez pas une conscience aiguë, précise, mais c'est ce qui s'est passé. Dieu a diverses manières de le faire, mais il utilise toujours le même instrument, l'annonce de la parole. Pas toujours au moment où elle est annoncée. Il nous a donné des mémoires, n'est-ce pas ? Une mémoire, c'est toujours ce que Dieu fait. La parole, l'Esprit souffle sur la parole, lui donne vie et elle donne vie. Rappelez-vous comment cette parole n'avait aucun intérêt pour vous. Puis, soudain ou graduellement, quelque chose s'est passé. Cette parole a commencé à renfermer un certain intérêt, parfois un intérêt qui venait par intermittence. Peut-être même simplement un intérêt intellectuel au premier, au début. Mais déjà, c'était différent. Vous ne regardiez pas les choses comme le voisin. Et puis, cette parole a semblé commencer à prendre vie. Et puis, tu as commencé à la boire avec avidité. Qu'est-ce qui s'était passé ? Dieu en haut, le Dieu dans les cieux, avait donné le don parfait de son esprit, qui avait donné vie à la parole et qui venait d'unir ton âme, désormais vivante, au Dieu vivant, grâce à la vie de résurrection de Christ. Tout découle de la croix, tout découle de ce Sauveur, ce qu'il a vécu et ce qu'il est, la mort qu'il a endurée. Et voilà une vie qui va maintenant grandir, s'affermir, mûrir, au travers des épreuves, au travers du désert de ce monde, jusque dans l'éternité, au sein d'une nouvelle création qui fait baver d'envie, si je peux dire, tous les éléments et élans humains pour la perfection. Il y a dans le cœur de l'homme un désir pour la perfection. Et certains avancent loin dans cette voie. Mais si seulement l'Esprit leur donnait de voir la perfection qui est en Jésus-Christ, en son œuvre, en l'œuvre de Dieu par l'Esprit au travers de la parole, dans la vie qu'il donne, dans cette nouvelle création qu'il forme, s'ils voyaient cela. Mais ils ne compareraient même pas la chose. Ça n'est pas possible. Il délaisserait, comme Paul l'a fait, les choses d'avant, qui étaient des choses que Paul Paul était très avancé, n'est-ce pas? Il les considère comme de la boue, comme en fait de l'excrément, c'est le mot, quelque chose d'absolument inutile. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et avant de clore, je voudrais m'adresser à toi. Toi qui, peut-être, es dans le cas où la parole n'a aucun attrait, aucun intérêt pour toi. Au plus profond de toi, tu sais qu'elle est vraie. Tu ne veux pas trop l'admettre, mais tu le sais. Mais cela ne t'attire pas. C'est une chose que tu connais sans plus. Alors, qu'est-ce que tu fais à m'écouter? Qu'est-ce que tu fais à écouter cette parole? Peut-être que tu cherches à gagner un bon point pour mettre Dieu de ton côté. Le dimanche, on va écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va au culte. Peut-être que tu es là par hasard. Tu t'es connecté et puis, bon, tu as suivi, curiosité. Il y a des gens qui sont comme ça. Ou bien peut-être les vieux ont décrété qu'il faut être là. Le dimanche, on écoute la prédication dans la famille. Alors, tu traînes les pieds, tu pousses les mains au fond des poches, tu essayes de faire comme si tu n'écoutais pas, mais tu es là, tu es là. Peut-être que c'est ton cas. Quoi qu'il en soit, ne te trompe pas. Mon ami, ne te trompe pas. Si la parole seule, morte à tes yeux, sans intérêt, ennuyeuse, barbante, si elle te semble cela, alors sache bien que le problème ne vient pas de cette parole. Ce n'est pas un vieux bouquin. Non. Il y a des gens sur terre aujourd'hui qui sont en prison. Il y a des gens aujourd'hui qui sont face à la mort, tout simplement parce que cette parole, pour eux, est une parole de vie. La parole qui, pour toi, est morte sans intérêt, pour eux, ils sont prêts à donner leur vie. Donc, le problème n'est pas avec la parole, mais face à cette parole de vie, mon ami, ton cœur est mort. Ton corps est mort. Il est l'esclave de ce que tu veux. Tu ne peux pas vouloir autre chose que ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu es prisonnier de cela. Tu es prisonnier du péché. Tu es attaché à cette terre. Ce péché t'a entraîné à tout moment vers le péché. Cette nature t'entraîne vers le péché qui, une fois arrivé à terme, produit une mort. Une mort pour laquelle tu te hais toi-même. Une mort pour laquelle tu te méprises, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui se passe quand tu as péché? Tu suis les élans de ton cœur. Tu suis ce que tu veux. Et tu te retrouves à pécher et tu te méprises. Tu te dis, mais franchement, c'est moi ça? Eh bien, la parole, mon ami, sache-le, ne te trompe pas. La parole, c'est une parole de vie. Et Dieu, qui ne change jamais, qui n'a pas d'ombre qui varie en lui, Dieu la donne par son esprit de vie. Tu vois qu'on est dans un autre registre que celui que tu connais pour le moment. Alors, vas-tu rester à te tromper? Vas-tu rester à t'avancer dans la mort de ta médiocrité? Ce qui fait que tu te méprises. Vas-tu continuer comme ça? Non. Va plutôt à Dieu et implore-le d'avoir pitié de toi. Tu ne sais pas comment le faire. Tu manques de sagesse pour le faire. Demande-la à Dieu. Mais ne demande pas n'importe comment. Ne demande pas en regardant en arrière. Demande en regardant à Dieu. Car lui, il ne donne pas avec des conditions. Il ne donne pas en rechignant. Non, il donne tout simplement de manière prodigue. Si tu crains qu'il ne va pas répondre, eh bien, tu peux aller sans vaciller. Regarde le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande à tous simplement, sans, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Avec révérence, mets Dieu au défi de sa parole. Il promet de donner. Va comme il demande de venir, et il te donnera. Que le Seigneur ajoute sa grâce aux paroles que nous avons vues ce matin. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient venir de ces versets. C'est un passage très riche. Mais là où nous en sommes venus, demandons à Dieu qu'il imprime, qu'il grave ces choses sur notre cœur, dans notre cœur, et que notre vie soit transformée, métamorphosée, qu'elle devienne toujours davantage, de façon manifeste, la vie de Christ. Comme le dit la parole de Dieu, « Soyez saints, car je suis saint. » Vous êtes saints si vous êtes en Christ. Eh bien, soyez ce que vous êtes, et que Dieu en soit glorifié. Que le cœur de son peuple soit rempli d'une joie abondante, même au sein des épreuves, même au sein de l'épreuve de la vie dans ce monde, rempli de joie. Le monde ne produit pas la joie. Ce n'est que factice. Le monde ne donne pas la joie, mais Dieu donne ce qui est bon. Soyez tous bénis par Dieu en Jésus-Christ. Amen.